Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Pendant la guerre, des pourparlers. Ils se sont ouverts ce matin à la frontière Ukraine-Biélorussie. Nous verrons ce qu'on peut en attendre. Au cinquième jour de guerre, l'offensive de l'armée russe semble marquer une pause. 500 000 Ukrainiens déjà exilés à l'étranger selon l'ONU. Nous irons en Roumanie. La solidarité en France collecte à Lille dans une épicerie qui s'appelle les Comptoirs de l'Est.
Je pouvais apporter, ils m'ont dit, des médicaments. Donc j'ai vidé ma pharmacie. De l'alimentaire, j'ai vidé mes réserves. Enfin, j'ai vidé mes armoires, du coup je me sens plus légère.
Et les conséquences économiques des sanctions internationales en Russie sont lourdes en revanche. La bourse de Moscou fermée toute la journée, le rouble s'effondre, la banque centrale russe augmente massivement ses taux d'intérêt. C'est la chasse au cash dans les rues de Moscou, nous dira notre correspondant. Les conséquences en France, un exemple, le titane crucial pour l'aéronautique. Nous dépendons largement de la Russie. Conséquences en cascade dans le monde du sport, des médias, de la culture. Vous entendrez le maître de ballet, Laurent Hilaire, qui démissionne du théâtre Stanislavski à Moscou. L'autre grand titre de ce jour, la moitié de l'humanité vulnérable au réchauffement climatique. C'est le rapport du GIEC consacré à l'impact du réchauffement et notre préparation ou pas. Premiers éclairages dans ce journal. Et ne manquez pas l'émission spéciale de la Terre au carré à 14h. Invité notamment Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du rapport de travail du GIEC. Retarder encore l'action climatique réduit les chances d'un avenir vivable selon l'ONU. Allez, une bonne nouvelle tout de même pour mieux respirer. Le masque tombe aujourd'hui dans les cinémas, musées et restaurants si vous avez le pass sanitaire. Et au chapitre légèreté dans ce 13-14, c'est une chanson, nous écouterons du Madonna. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Et avant d'évoquer les pourparlers entre Ukrainiens et Russes, le témoignage de cet Ukrainien que nous suivons depuis le début de la guerre, Vladislav Holovkov, étudiant à Kiev, c'est là qu'il était au début de l'offensive russe. Il a quitté la capitale pour mettre sa famille à l'abri près de la frontière polonaise. Il est maintenant dans les Carpates ukrainiennes, dans l'ouest du pays. Il a rejoint, il y a deux jours, un checkpoint. Et il se bat. Bonjour Agera Mohamad.
Bonjour.
Ce garçon de 18 ans vous a raconté ce matin dans quelles conditions il se bat.
Oui, il m'a raconté aussi sa principale mission, celle de repérer et d'arrêter les saboteurs, ces agents infiltrés russes. Et pour ça, Vladislav est posté sur une route en haut d'une colline avec des jumelles. Il guette toutes les voitures qui approchent.
Je lis les plaques d'immatriculation à mes collègues. Mes collègues regardent sur une liste de plaques qu'on a des voitures qu'on doit arrêter et intercepter. Et on vérifie. Aussi, à part un binocle, j'ai un fusil de chasse avec lequel je peux tirer assez loin, ce qui veut dire que mon rôle, c'est en quelque sorte un sniper.
Un sniper débutant qui a déjà intercepté 5 saboteurs sur ce checkpoint. Le dernier, c'était hier soir.
On l'arrête, en faisant semblant qu'on ne sait pas que c'est lui, évidemment. Après, on essaie de l'arrêter, il essaie de courir. On tire, il est par terre.
Vous tirez sur lui ?
Dans toute la voiture. Absolument, oui. Dans les jambes. Après, on l'arrête, on les questionne, on les donne au SBU, c'est la police secrète ukrainienne, et eux, ils font tout ce qu'ils veulent avec lui.
Voilà, un récit très méthodique, très froid même de Vladislav, qui, rappelons-le, il y a 4 jours, était un simple jeune étudiant de 18 ans. Il n'avait jamais tenu une arme dans ses mains. Alors je lui ai posé la question.
Vlad, c'est la première fois que vous tirez sur un homme ?
Absolument.
Qu'est-ce que ça fait ?
Bah, honnêtement, pendant ce moment-là, ça a l'air d'être juste un travail. C'est ou lui ou c'est nous. Parce que de chaque heure, on entend de mes amis, des gens que je connaissais, qui sont morts sur le front. Aujourd'hui, il y en a eu un. Une personne que je reverrai jamais. Il est parti juste comme ça. C'est ce qu'il faut faire, parce que si on le fait pas, on perd.
Et perdre, il en est hors de question pour Vladislav, prêt, dit-il, à mourir lui aussi pour son pays.
C'est le cinquième jour de guerre, on fait un point militaire avec Valérie Crova dans un instant. D'abord, ce qui est l'information majeure de la matinée, c'est pour parler à la frontière entre Ukraine et Biélorussie, région de Gomel, pour parler ouvert ce matin entre Russes, Ukrainiens, en présence des Biélorusses, les 3 drapeaux dans la salle de réunion derrière la grande table. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour.
L'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine, Eric, sait-on ce qui est posé au fond sur cette grande table des pourparlers ?
Pas vraiment en fait. L'ordre du jour de cette négociation n'est pas très très clair. Sur son site web, la présidence de la République ukrainienne indique que l'objectif premier, c'est d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et une évacuation des troupes russes hors du territoire d'Ukraine. Hier soir, le président Zelensky disait ne pas attendre grand-chose en fait de ces discussions. La délégation ukrainienne est composée de 6 personnes. Il y a le vice-ministre des Affaires étrangères, il y a le chef du parti du président, il y a un député, quelqu'un qui participait aussi à ce qu'on appelle le groupe de contact tripartite, qui était en négociation normalement continue avec les Russes à propos du Donbass et des accords de Minsk sur le autour du cessez-le-feu des accords de Minsk de 2015. Et en fait, ces négociations, ces discussions là, dans le groupe de contact tripartite, ont été rompues par la Russie il y a à l'été à peu près. Et puis dernier membre de cette délégation ukrainienne, c'est le ministre de la Défense, hein, qui a publié tout à l'heure sur sa page Facebook, enfin aux toutes premières heures de la journée, un petit texte où il se montrait manifestement galvanisé par les décisions européennes de livrer à l'Ukraine de l'armement, un ministre de la Défense qui se disait, certains, je le cite, que les envahisseurs russes seront punis, qu'ils doivent être punis durement et inévitablement. C'est vous dire dans quel état d'esprit il aborde, lui, cette négociation avec les Russes.
Éric Biegala, en direct d'Ukraine pour France Inter. Ce que veulent les Ukrainiens, c'est un cessez-le-feu russe, le retrait des troupes russes. Du côté russe, on ne dit pas ce qu'on attend de cette réunion. Par ailleurs, le président ukrainien demande une procédure spéciale pour une adhésion immédiate à l'Union européenne. Les Nations Unies anticipent une crise humanitaire majeure. Des millions de personnes obligées de quitter leur domicile en Ukraine ou à l'étranger. Ce matin, le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés recense déjà 500 000 personnes venues d'Ukraine, arrivées dans les pays limitrophes, beaucoup en Pologne, en Roumanie également. C'est là que se trouve Mathilde Dehimi pour France Inter, près de la frontière ukrainienne.
Johan Pavel n'est pas resté longtemps derrière ses dossiers. Sur une grande table, le maire de Dubravene rassemble des médicaments dans des cartons.
Un sirop.
C'est en discutant à la frontière avec des réfugiés qu'il s'est rendu compte des besoins.
Les enfants sont petits, il fait froid dehors et ils se sont enrhumés. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de médicaments. Alors on a filé à la pharmacie, on a acheté une grande quantité et renvoyé la moitié immédiatement à la frontière. Tout est parti en un quart d'heure.
Il va augmenter dès que possible les quantités, peste contre une organisation trop lente à ses yeux, alors que le pire est à venir.
On le savait qu'il y aurait cet exode. Les prochains jours, on aura des centaines de milliers de gens, des centaines. Ils doivent avoir la possibilité de demander l'asile, de prendre un avion, un train. Beaucoup ont des contacts loin d'ici, les autres vont rester avec nous.
Les Roumains ne peuvent plus passer à portée de l'aide, au risque de rester coincés des heures, des jours. Johan Pavel râle contre l'attentisme des autorités ukrainiennes de la province frontalière.
Il nous faut un protocole avec la préfecture de Tchernahoutis pour pouvoir envoyer par camion entier des vivres, des médicaments, des vêtements, des couvertures pour les gens qui sont coincés côté ukrainien de la frontière.
L'urgence est d'aider en amont et de laisser plus rapidement passer les familles, dit le maire de Dubravene.
Voilà pour ce reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Mathilde Dehimi. Au plan militaire, cette cinquième journée de guerre semble plus calme que les précédentes. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
État de la bataille avec vous Valérie, en commençant par la deuxième ville du pays, Kharkiv, où la guerre faisait rage hier.
Tout est calme pour l'instant, me disait tout à l'heure une habitante de Kharkiv, même si des explosions ont été entendues dans la périphérie ce matin. Kharkiv, ville industrielle qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de la frontière russe, est sous le contrôle total des forces ukrainiennes. Moscou affirme avoir ralenti son offensive, mais essaye d'engranger des succès dans certaines régions, a fait savoir l'état-major ukrainien. Ainsi, la ville de Berdyansk, sur la mer d'Azov, est désormais occupée, selon la présidence ukrainienne, et l'armée russe dit avoir encerclé la ville de Kherson, plus à l'ouest. Dans le nord, un immeuble résidentiel a été frappé par un missile à Tcherniv. Une autre ville du nord de l'Ukraine, Jytomyr, a elle aussi été touchée par des missiles dans la nuit. Les soldats russes ont par ailleurs assuré ce matin que les civils pouvaient quitter librement la capitale Kiev. Moscou accuse le pouvoir ukrainien de les utiliser comme boucliers humains. Un mot sur les pertes humaines, oui. Bruno. Au moins 102 civils ukrainiens ont été tués, selon le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Les autorités ukrainiennes donnent quant à elles un bilan plus élevé. Au moins 350 morts, dont 14 enfants depuis le début de l'invasion russe.
Et ce conflit rebat les cartes de la géopolitique en Europe. Pour la première fois, l'Union européenne finance l'achat et la livraison d'armements et d'équipements militaires à un pays victime de guerre. L'Allemagne, en quelques jours, a revu radicalement sa doctrine militaire. Doublement de son budget militaire, envoi d'armes, anti-chars et de missiles à l'Ukraine. Le chancelier Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne dînent ce soir à l'Elysée. Au plan économique, l'une des informations importantes de ces dernières heures, c'est le retrait de Russie du groupe pétrolier britannique BP. Les sanctions internationales vont-elles asphyxier l'économie russe et à quel rythme? L'objectif financier, notamment, c'est de couper les banques commerciales et la banque centrale russe de l'accès aux marchés de capitaux, d'empêcher la banque centrale de puiser dans une partie des réserves de devises constituées en prévision de la guerre. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter à Moscou, vous êtes en direct. L'économie russe, Sylvain, tangue déjà, les taux d'intérêt augmentent massivement, le rouble dégringole, la bourse de Moscou restera fermée toute la journée.
Oui, effectivement, hein, le rouble qui était jusque-là soutenu par les interventions de la Banque centrale russe, qui dispose de fortes réserves, mais dont les sanctions ont coupé de la moitié de ces réserves, eh bien le rouble effectivement perd énormément ce matin, et ce malgré une tentative désespérée de la Banque centrale qui a porté ses taux d'intérêt ce matin à, écoutez bien, 20%. Malgré cela, eh bien, la monnaie a quand même perdu jusqu'à 40% de sa valeur ce matin. Et puis, le gouvernement a annoncé également que les sociétés exportatrices, donc qui perçoivent des devises, allaient être obligées de convertir 80% de leurs recettes en roubles, de façon à soutenir la monnaie. Ce sont là des décisions que l'on pourrait presque qualifier d'économie de guerre. Le Kremlin, qui d'ailleurs disait jusqu'ici que le pays était préparé aux sanctions, a changé de ton brusquement ce matin, a reconnu que la situation économique avait drastiquement changé, un changement de ton probablement destiné à préparer la population à des jours difficiles.
À propos de population, pour le russe de la rue, qu'est-ce que ça change la situation actuelle ?
Alors, on ne peut pas encore parler de panique, mais on commence à signaler des files d'attente qui s'allongent vraiment devant les distributeurs d'argent. C'était déjà le cas depuis 3-4 jours, mais cela s'amplifie clairement depuis ce matin. Beaucoup de gens cherchent des dollars, des euros pour essayer de se couvrir, de se protéger contre le risque de change. Il y a une vraie inquiétude, hein, après également l'annonce des sanctions qui visent les grandes banques russes, notamment Sberbank, qui est la grande banque des particuliers. Ici, presque tous les Russes ont un compte chez Sberbank. Il y a une vraie crainte également chez les Russes à nouveau de voir les prix s'envoler, et l'inflation ici, c'est un vrai sujet, elle est déjà aux alentours de 9%.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou pour France Inter, moins 2,9% pour le CAC 40 à Paris, le baril de pétrole Brent à plus de $100, le cours du blé tendre, du palladium qui sert dans l'électronique voit leur cours grimper. Tout cela renforce les risques d'inflation déjà élevés en Europe, 7% en Espagne, c'est un des chiffres clés de ce jour, inflation de 7% sur un an en Espagne. Et puis un exemple de répercussions pour les entreprise française, c'est l'aéronautique. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Il y a un composant, Fabien, que la Russie fournit massivement à la France, c'est le titane.
Oui, à la fois pour Airbus et certains de ses équipementiers, parmi eux, Safran, très consommateur de titane pour les moteurs d'avion et les trains d'atterrissage. La Russie est le premier fournisseur mondial, alors forcément, il faut se préparer à tous les scénarios, y compris celui d'une rupture d'approvisionnement. Le directeur général de Safran, Olivier Andriès, disait prendre le sujet très au sérieux lors de la présentation de ses résultats annuels jeudi dernier.
On a suffisamment de stock pour nous amener, on va dire, à l'automne. Depuis le début de l'année, compte tenu de la situation, on avait décidé d'augmenter nos stocks de titane. On a racheté des stocks qui existaient ici ou là, et notamment en Allemagne, chez des distributeurs. Comme toujours, nous avons des politiques de double source ou de triple source pour nos équipements. Mais en même temps, nous allons, dans les semaines qui viennent, accélérer, au cas où, les sources alternatives.
Des sources alternatives au principal fournisseur russe, VSMPO, une société dont l'État russe détient 25% du capital et qui représente près de la moitié du total des approvisionnements en titane pour les géants français du secteur aéronautique.
À propos d'aéronautique, rappelons qu'hier, Union européenne et Canada ont fermé leur espace aérien aux avions russes. La solidarité en France, nous allons dans une épicerie de Lille, épicerie russo-ukrainienne. Elle s'appelle les Comptoirs de l'Est. Elle collecte vivres et médicaments pour les Ukrainiens. Une camionnette doit partir jeudi en direction de la Pologne dans un premier temps. Reportage Arthur Fradin, France Bleu Nord.
Sinon, le petit carton, là, c'est des médicaments, là.
Boîte de Doliprane, mais aussi vêtements, nourriture. En une journée de collecte, l'arrière-boutique de cette épicerie s'est bien remplie. Fabienne, qui a vidé tout un chariot, cherchait à tout prix à venir en aide aux Ukrainiens.
Je pouvais apporter, ils m'ont dit, des médicaments. Donc j'ai vidé ma pharmacie, de l'alimentaire, j'ai vidé mes réserves. Enfin, j'ai vidé mes armoires, Du coup, je me sens plus légère.
Et pour quelle raison alors le conflit ukrainien vous touche particulièrement? Vous pouvez nous expliquer?
Parce qu'on se sent démunis face à tout ce qu'ils endurent et on voudrait les aider.
Derrière sa caisse, Alexandre, le propriétaire d'origine ukrainienne, semble touché.
Merci beaucoup en tout cas. Excellente journée.
Sa famille et ses amis sont en Ukraine. Certains sont à Kiev et n'ont plus de provisions. Julia, son épouse, cherche donc à rassembler un maximum de vivres. Elle est impressionnée par le nombre de Français qui se proposent.
Je peux vous montrer sur mon message Facebook depuis hier. Regardez le nombre de messages qu'on reçoit. Français, 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 Français. Lui, c'est un Polonais.
Ce sont des gens que vous connaissez pas forcément
c'est
toujours.
C'est des gens qu'on connaît pas. C'est pas des clients à nous. C'est juste des personnes qui sont sensibles à la situation et qui souhaitent aider les Ukrainiens.
Quand la réserve sera pleine, le couple compte stocker dans l'entrepôt au sous-sol. Julia dit avoir un besoin tout particulier au niveau des médicaments.
Et l'actualité de cette mi-journée, c'est le 4e Conseil de défense en une semaine qui se tient à l'Élysée. Nous y allons dans une seconde. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, prend la parole en ce moment. La politique est très centrée sur l'Ukraine. La seule fenêtre de campagne, c'est ce sujet pour les candidats, le seul endroit où faire campagne. C'est le salon de l'agriculture. Exemple des deux avec Valérie Pécresse dans le salon. Ce matin, reportage Élodie Forêt.
Oui, car au salon de l'agriculture aussi, la guerre est dans tous les esprits, sujet de discussion dans de nombreux stands où s'arrête la candidate, exemple ici du côté des céréaliers.
Si on additionne la Russie et l'Ukraine, on a 30% du commerce international de céréales. Donc en fait, on a 30% du marché, on a le tiers du marché international qui est bloqué et qui va être bloqué sans doute durement pour longtemps.
À ces inquiétudes, Valérie Pécresse répond en brocardant la stratégie Farm to Fork de la ferme à la fourchette portée par la Commission européenne qui prévoit notamment de consacrer un quart des terres cultivées à l'agriculture biologique. Une politique de décroissance agricole dénonce-t-elle quand il faudrait encourager la production française et la souveraineté alimentaire.
La crise russo-ukrainienne met en évidence une chose, c'est que nous devons être souverains en matière agricole. La ferme France, c'est un de nos atouts majeurs et on ne peut pas la faire décroître. Et c'est encore plus important aujourd'hui quand deux grands pays producteurs agricoles se font la guerre.
La guerre qui s'invite au salon dans le fond et la forme, car la candidate qui avait initialement prévu une journée marathon s'arrêtera finalement à 14h pour se rendre à Matignon pour la réunion spéciale Ukraine avec Jean Castex.
Merci Élodie Forêt, en direct du salon de l'agriculture avec Martin Troadec. Autre propos de candidat Éric Zemmour à propos des réfugiés ukrainiens. Il estime que leur arrivée risque de déstabiliser la France. Il préfère qu'ils soient en Pologne et qu'on aiderait à faire face. Et même si on regarde d'abord l'avancée de la guerre militaire, on mesure l'importance au fil de cette crise du soft power. Commençons par les dernières sanctions dans le monde du sport. Avec vous Romain Bercher, le football, une des informations de la matinée, le club de foot allemand de Schalke renonce à son contrat de sponsoring avec Gazprom. La FIFA prend une décision jugée par beaucoup à minima. Pas de bannissement de la Russie de la prochaine Coupe du Monde, mais les prochains matchs sans hymne ni drapeau. Et puis le comité olympique français était réuni ce matin, Romain.
Oui, réunion autour de la présidente Brigitte Henriques, réunion à distance, 77 fédérations représentées, pour en fait tenter de parler d'une seule voix. Alors on n'a pas encore de position commune, le texte est en cours de rédaction, mais on sait déjà que la ministre des Sports a demandé qu'aucun athlète ou équipe française ne se rende en Russie en ce moment. La principale inquiétude des fédérations, ça concerne surtout le sort des athlètes, des arbitres français qui seraient en ce moment en Russie ou en Biélorussie. Il faut recenser leur nombre, tenter de les joindre, savoir s'ils comptent rester sur place ou non, voire leur proposer des solutions de rapatriement en lien avec les autorités. C'est le cas du volleyeur Zhenya Grebennikov, champion olympique avec les Bleus et qui évolue en ce moment au Zénith Saint-Pétersbourg. Il a d'ailleurs joué hier puisque là-bas le championnat russe n'est pas suspendu. Se pose aussi la question chez nous des prochaines compétitions internationales, notamment du sort réservé aux athlètes russes. Montpellier accueillera par exemple, dans 3 semaines, les mondiaux de patinage.
Merci Romain Bercher. Après le sport, les médias. Nous allons interdire dans l'Union européenne la machine médiatique du Kremlin. Les médias d'État Russia Today et Sputnik et leurs filiales ne pourront plus diffuser leurs mensonges. C'était les propos hier d'Ursula von der Leyen. Bonjour Alexandra Akoun.
Bonjour Bruno.
Alors Russia Today, en France, l'antenne n'est pas encore éteinte. Vous avez regardé RT France ce matin.
Oui, et premier constat Bruno, RT France n'a pas l'intention de se laisser faire dans cette histoire et elle le fait savoir.
C'est en direct sur RT France. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette édition spéciale consacrée à la guerre en Ukraine.
Et au milieu de cette édition spéciale, ce matin, un duplex avec l'éditorialiste de la chaîne, Alexis Poulain, qui attaque tout de suite sur le fait qu'aucune directive européenne n'existe pour bannir un média et d'ajouter
les pays européens vont essayer de pédaler pour empêcher RT et Spoutnik d'émettre, accusant ces chaînes de faire de la propagande. Or, je n'ai jamais fait de propagande sur cette antenne et je crois que nous sommes nombreux, journalistes à la rédaction de RT France, à n'avoir jamais fait de propagande, mais fait notre métier de journaliste, c'est-à-dire informer autrement, informer tout simplement.
Sur ces journalistes, d'ailleurs, la chaîne insiste beaucoup depuis hier soir, notamment sur les réseaux sociaux, rappelant que RT, sur 176 salariés, compte 100 journalistes en France, des professionnels titulaires de cartes de presse, dont RT promet dans un communiqué qu'elle en défendra les droits et saisira tous les recours juridiques possibles.
Justement, au niveau du droit, si ça n'est pas l'Europe qui a la main, qui peut interdire RT ?
Effectivement, au niveau européen, il n'y a donc pas de directive sur le sujet. C'est donc au pays qui a délivré l'autorisation de diffusion de prendre des mesures. En France, ce pouvoir revient à l'ARCOM, ex-CSA, selon une procédure bien définie que nous explique Isabelle Weckstein du cabinet One, avocate spécialisée en droit des médias.
Il y a un rapporteur qui est nommé, qui fait une enquête, et si les manquements sont avérés, l'ARCOM peut décider de sanctions. Dans un cas exceptionnel comme celui-ci, l'ARCOM peut passer par une procédure qui est plus rapide, c'est-à-dire que c'est la saisine du Conseil d'État pour qu'il soit ordonné en référé la cessation de la diffusion de la chaîne par l'opérateur.
Mais pour l'instant, l'ARCOM ne dit rien, et RT France continue à émettre.
Le sport, les médias et la culture, exemple de répercussion à Moscou. Un Français choisit de démissionner d'une grande institution moscovite qu'il dirigeait. Laurent Hiller, ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris, directeur du ballet au théâtre Stanislavski, quitte ses fonctions. Stéphane Capron l'a joint ce matin au téléphone.
Tout devient aujourd'hui politique. Si je restais, c'était un acte politique. Si je pars, c'est un acte politique. De toute façon, ma position devait s'éclaircir et c'est la raison pour laquelle j'ai pris, non pas par la force des choses, mais par rapport à ce que je pense, par rapport à mes valeurs. Je suis contre cette guerre, évidemment.
Quel est l'état d'esprit de votre ballet aujourd'hui ?
Ils sont tristes. Ils se sentent incertains pour leur avenir. Ils s'interrogent beaucoup. Que va-t-il se passer en Russie avec la fermeture des frontières? On a travaillé avec beaucoup de chorégraphes étrangers. Je pense que vu la situation, tous les projets que j'avais mis en place à venir sur la fin de cette saison, sur l'année prochaine et dans 2 ans, vont s'arrêter. Donc il y a une grande inquiétude par rapport à leur avenir à eux. Et je pense qu'ils ont été aussi très affectés par mon départ. Je vous avoue que la réunion que j'ai eue avec le ballet quand je leur ai annoncé que je partais, c'était franchement pas gai. Et j'étais aussi extrêmement touché par leurs témoignages et en même temps, une situation auquel personne ne peut échapper.
Le maître de ballet Laurent Hiller qui quitte le théâtre Stanislavski, il est avec Stéphane Capron. Comme promis, pour conclure cette longue page du Trésor consacrée à la crise en Ukraine, nous allons à l'Élysée. 4e conseil de défense en une semaine. Simon Le Baron, les ministres de la Défense et de l'Économie viennent de prendre la parole.
Oui, notamment Jean-Yves Le Drian, à l'instant ministre des Affaires étrangères, qui évoque l'évacuation des ressortissants français toujours présents en Ukraine. Aux dernières nouvelles, il serait plusieurs centaines encore sur place. Ils étaient 1200 dans le pays avant l'offensive russe. Et il y a une opportunité d'évacuation, dit Jean-Yves Le Drian.
Nos compatriotes, je m'adresse à eux avec beaucoup d'émotion, là, peuvent décider de saisir cette opportunité de départ par la route. Nous ne pourrons pas leur apporter d'assistance sur la route, ni garantir la totale sécurité sur le trajet, mais nous serons en mesure, d'une part, de leur apporter des informations régulières sur les points de passage, et d'autre part, d'avoir une assistance consulaire et une assistance d'une manière plus large de l'autre côté de la frontière.
Voilà pour le sort des ressortissants français en Ukraine, alors que la Russie assure que les citoyens peuvent quitter Kiev, la capitale, librement. Pour le reste, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé qu'il avait été décidé d'accentuer encore les sanctions économiques, notamment contre les proches du pouvoir russe. Bruno Le Maire souligne que l'intégralité des avoirs de la Banque centrale russe ont été gelés dans la nuit, ce qui a déjà, a-t-il dit, des répercussions sur l'économie en Russie. Voilà pour cette déclaration à la sortie du Conseil de défense et de sécurité nationale. Déclaration rare et pas anodine, souligne l'Élysée, qui a encore diffusé ce matin les premières secondes de cette réunion pourtant classée secret défense. La volonté est claire au palais présidentiel d'illustrer par l'image l'activisme diplomatique du président de la République qui se fait par définition en coulisses.
Simon Le Baron en direct de l'Élysée avec Christophe Papon pour France Inter sur l'attitude de l'Europe dans cette crise. Dans quelques minutes, l'historienne Nicole Niesoto est notre invitée. Vous pouvez lui poser toutes vos questions au 01 45 24 7000. Le groupe international d'experts sur le climat, le GIEC, vient de publier un nouveau rapport très attendu, les conséquences du changement climatique et notre capacité ou pas à nous y adapter. Je précise tout de suite que la Terre au carré consacre à ce rapport une émission spéciale à 14h, ne la manquez pas. Mais d'ores et déjà avec vous, Célia Kiré, un premier éclairage. Nombre de terriens victimes de la montée des eaux, nombre d'espèces d'animaux menacées par le changement climatique, comme redouté, les chiffres sont implacables. Près de la moitié des habitants de la planète sont vulnérables au changement climatique.
Oui, près de 3,5 milliards de personnes déjà très vulnérables aux impacts du changement climatique. C'est considérable. Ce sont surtout les pays pauvres, les zones côtières en particulier, qui souffrent de la montée du niveau de la mer, de tempêtes ou de sécheresses, mais pas seulement. Dans ce nouveau volet qui complète le rapport du GIEC sorti en août, il est surtout question d'adaptation. Elle est vitale, mais elle doit être très ambitieuse, estime le chercheur Alexandre Magnan de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Il a participé à ce rapport.
Sans adaptation, sans réponse à ces risques climatiques, on va se confronter à des problèmes assez catastrophiques, en fait, à l'échelle planétaire. La montée du niveau de la mer va se poursuivre à l'échelle de plusieurs siècles, quels que soient les efforts, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez construire, comme aux Maldives, par exemple, des digues sur le littoral pour vous protéger des vagues. Vous pouvez faire du retrait stratégique, comme sur la commune d'Étrée, par exemple. En France, on a retiré des maisons du littoral. Il y a tout un tas de solutions très concrètes.
Des solutions très coûteuses aussi, mais nécessaires pour limiter les dégâts. Dans ce rapport, pas de facture globale, car tout dépendra des efforts des États pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. En gros, l'adaptation est nécessaire, mais pas suffisante. Tout n'est pas perdu, et chaque dixième de degré compte, affirme Wolfgang Kramer, directeur de recherche au CNRS, auteur également de ce nouveau volet.
Ça vaut le coup d'abord de réduire des émissions de gaz à effet de serre pour minimiser ces risques, mais ça ne suffit pas. Il faut renforcer l'adaptation qui est actuellement insuffisante. Il y a aussi l'agriculture, par exemple, qui doit s'adapter d'une façon significative pour, par exemple, être plus résiliente face à des sécheresses ou des situations autrement extrêmes dans l'avenir.
Il faut donc miser sur des cultures variées et la sauvegarde de la biodiversité est fondamentale pour limiter le réchauffement. Or, 3 à 14% des espèces sont menacées. Les auteurs du GIEC appellent à protéger 30% à 50% de la surface de la planète, sur Terre et dans les océans.
Émission spéciale de la Terre au carré consacrée à ce rapport dans un peu plus d'une demi-heure. Allez, dans cette actualité bien angoissante, il y a tout de même une bonne nouvelle. Vous avez le pass vaccinal, eh bien plus besoin à partir d'aujourd'hui de masques au restaurant, au musée, au théâtre, au cinéma. Delphine Evenou a interrogé des cinéphiles à l'entrée de la première séance de la journée, quartier Beaugrenelle à Paris.
Devant le stand confiserie et la borne billetterie, les quelques spectateurs matinaux ont encore la moitié du visage caché, pas au courant de la mesure.
Ah ouais ? Je peux l'enlever ? Ah bah c'est cool.
Un peu d'air.
Un petit retour à la vie normale, quoi, ça fait du bien.
Bon, là déjà toute la journée dans les transports. Là, au moins, on peut souffler un petit peu en passant un bon moment, c'est plus sympa.
Mais certains prenaient déjà des largesses dans la pénombre de la salle.
Je mets comme ça, moi, j'arrive pas à respirer.
Sous le nez ?
Ah oui, sous le nez, obligatoirement. Mais j'étais tout seul. Hein. Je viens le matin, il n'y a personne. Le premier spectateur, il est à 15 mètres.
J'avoue qu'on prend toujours du pop-corn. Du coup, on l'enlevait à chaque fois. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Et vous le remettiez pas après chaque bouchée ?
Non, clairement pas.
Quelques-uns restent un peu stressés et n'ont pas forcément l'intention de profiter de l'opportunité de tomber le bout de tissu.
Bon, ça dépendra combien de personnes il y a dans la salle, mais je pense pas, non. Ouais, je suis enceinte de 8 mois et demi, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour moi pour attraper le Covid.
Mais la peur d'un cluster dans un lieu clos fait partie du passé pour la plupart.
Moi, je suis convaincue qu'il va falloir vivre avec ce virus, donc c'est bien que ça s'allège. J'espère que les obligations ne vont pas recommencer.
Les séances plus fréquentées du soir et du week-end seront peut-être un peu plus masquées.
Et parmi les allègements du jour, vous êtes cas contact. Un seul test nécessaire après avoir été déclaré au lieu de 3. Cela vaut aussi pour les scolaires. Dans les écoles, les élèves de la zone A après la B redécouvrent le plaisir des récrés sans masque. Il reste de rigueur ce masque en salle de classe. La météo dans un instant.
Innovation des laboratoires LIERAC. Pour un effet lifting sans injection, découvrez Lift Intégral des laboratoires LIERAC. La crème Lift Intégral lisse, raffermit et repulpe la peau grâce à la tulipe liftante brevetée et au concentré d'acide hyaluronique. Les rides sont réduites jusqu'à 39% et 90% des femmes trouvent leur peau raffermie. En ce moment, pour l'achat d'un soin anti-âge Lift Intégral, votre soin complémentaire offert. Dans la limite des stocks disponibles en pharmacie, parapharmacie ou sur lirac.fr. Détails des tests cliniques sur lirac.fr.
Allô Alain, c'est Géraldine. Je suis pas très à l'aise. Philippe vient de partir en mer tout seul, sans moi, et vous savez, avec ses oreilles.
Il a bien pris ses deux paires d'appareils auditifs.
Ah oui, je les ai rangés moi-même.
Et il entend très bien avec.
Oui, bien sûr.
Bon, alors tout va bien, il peut être tranquille, et nous aussi.
Avec Chin Audio, la sécurité pour 1 euro de plus, ça n'a vraiment pas de prix.
Chin Audio, votre deuxième paire d'aides auditives pour 1 euro de plus, jusqu'au 31 août 2022. Voir conditions dans nos magasins Alain Flelo Acousticien. Dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste.
Le temps de ce jour.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Eh bien tiens, une autre bonne nouvelle, du soleil pour presque tout le monde aujourd'hui.
Oui, cet après-midi, toute la Gaule est occupée par le ciel bleu et le soleil. Toute non, bien évidemment, car une région peuplée d'irréductibles bretons résiste encore et toujours. Le ciel est donc bien chargé cet après-midi sur la Bretagne. Les nuages débordent même jusqu'à l'embouchure de la Loire et au Cotentin. Cette perturbation donnera un peu de pluie sur le Finistère cet après-midi. Et puis entre la Vendée et la baie de Seine, le ciel est partagé entre belles éclaircies et paquets nuageux. Mais sur tout le reste du pays, l'après-midi restera largement ensoleillé, avec une ambiance assez douce, ce qui contraste avec la fraîcheur matinale et les nombreuses gelées relevées au lever du jour. Il fera 11 degrés à Lille, Metz et Strasbourg, 13 degrés à Paris, Brest, Le Havre et Besançon, 14 degrés à Lyon, La Rochelle et à Bastia, 16 degrés pour Nantes, Marseille et Perpignan, 17 degrés à Toulouse et on ira jusqu'à 19 degrés à Biarritz.
Sébastien Léas, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Et en ce cinquième jour de guerre en Ukraine, après un week-end particulièrement mouvementé, notre invité jusqu'à 13h45 est professeur émérite au CNAM, où elle a créé la chaire Union européenne, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, historienne spécialiste des questions européennes et de défense. Bonjour Nicole Niesoto.
Bonjour.
Merci de répondre aux questions de France Inter. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir pour nos auditeurs. Je disais, week-end particulièrement mouvementé, Madame Niesoto. Au-delà du militaire, il y a la position de l'Union européenne. L'Union européenne qui, en tant que telle, envoie des armes. L'Allemagne qui double son budget militaire et qui, elle aussi, envoie des armes. Est-ce que on a assisté ce week-end à un tournant, deux tournants historiques?
Oui, c'est un tournant, c'est un réveil, mais c'est un réveil brutal dans la peur et la désillusion. C'est pas la naissance d'une Europe superpuissante, sûre d'elle et ambitieuse dans le monde. C'est vraiment une réaction à une crise majeure. Et il se trouve qu'effectivement, Poutine obtient exactement le contraire de ce qu'il souhaitait. Il souhaitait affaiblir l'OTAN et diviser les Européens. Il se retrouve devant une OTAN unie et des Européens plus qu'unis, puisque vous l'avez dit, les Européens ont pris des décisions qui paraissaient impensables jusqu'à maintenant pour l'Allemagne. De vendre des armes défensives et de doubler pratiquement son budget militaire, et pour l'Union européenne en tant que telle, faire passer des armes, du carburant et du matériel médical à l'Ukraine. Mais cela dit, je voudrais juste faire quand même une précision.
Oui.
Quand on dit que l'Europe vend des armes ou va vendre des armes à l'Union européenne, c'est pas exactement ça. On n'est pas en train de créer une Europe de la défense intégrée. Ça n'est pas la Commission, le budget communautaire qui sont
mis à disposition.
Ce sont des budgets des États membres. Ce sont les États membres qui ont décidé de coordonner et d'utiliser une ligne budgétaire qui existait, financée par les États membres, pour rembourser, pour se rembourser sur les armes qu'ils vendraient à l'Ukraine. Donc c'est un progrès en matière de solidarité stratégique des Européens. On va se coordonner notamment en Pologne pour savoir ce qu'on envoie en Ukraine, mais ça reste une opération des États. Ça n'est pas la naissance, on peut le regretter, moi je le regrette, mais ça n'est pas encore la naissance d'une Europe militaire intégrée. Il ne faut pas aller plus vite peut-être que la musique.
Question de Missia pour vous au standard, Madame Niesoto. Bonjour Missia.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour.
Oui, je me demande pourquoi on n'a rien fait pour la Géorgie, parce qu'il me semble que c'était un avertissement. Pourquoi on s'est endormi, comme dit madame, en disant on se réveille brutalement? Voilà, je comprends pas pourquoi on n'a rien fait.
Pourquoi c'est...
pourquoi on n'a rien fait pour la Géorgie? On s'est un peu... On s'est pas mobilisé comme on s'est mobilisé maintenant, et pourquoi on a attendu tout ce temps pour qu'il envahisse l'Ukraine.
Merci pour votre question. Pourquoi cette différence d'attitude, Nicole Niesoto?
Non, il n'y a pas une vraie différence d'attitude. En 2008, quand la guerre éclate entre la Géorgie et la Russie, je rappelle que d'ailleurs la France était déjà en présidence de l'Union européenne, c'était Nicolas Sarkozy à l'époque qui était président de la République, et il a pris en tant que président de l'Union européenne des initiatives qui ont abouti à un cessez-le-feu. C'est, on peut quand même dire que c'est la France, c'est grâce à la France qu'on a pu aller très vite sur la négociation d'un cessez-le-feu, l'Union européenne a été l'un des acteurs avec l'OSCE qui a surveillé la mise en œuvre d'un accord de cessez-le-feu en 12 points que la France avait aidé justement à rédiger. Donc non, je ne suis pas d'accord, ça n'est pas qu'on n'a rien fait. On a facilité l'arrêt des hostilités et c'était plus facile, entre guillemets, en Géorgie que dans le cas de l'Ukraine, qui est un pays, un très grand pays de 44 millions d'habitants, ce qui n'était pas le cas de la Géorgie. Donc,
vous ne voyez pas une différence, disons, dans l'ampleur de la réaction entre la Géorgie en 2008 et l'Ukraine aujourd'hui?
Si, bien sûr. Non, il y a une différence dans l'ampleur de la réaction, de même qu'il y a une différence dans l'ampleur de l'attaque. La guerre russo-géorgienne était une guerre limitée aux deux républiques séparatistes d'Ossétie et d'Abkhazie, qui étaient déjà des républiques séparatistes, qui ne voulaient pas être attachées à la Géorgie. Et donc, c'était une guerre limitée. Aujourd'hui, ce qu'on a en Ukraine, c'est une invasion. C'est une invasion dans tout le pays, avec une attaque sur Kiev, la capitale, avec une volonté de Poutine, peut-être de faire prisonnier le président de la République, et je ne sais pas s'il va en faire un procès ou je ne sais quoi, mais on voit réapparaître des souvenirs staliniens extrêmement forts. Donc l'ampleur de l'attaque est totalement différente et donc justifie une ampleur de réaction totalement différente.
Et je voudrais qu'on s'arrête sur le changement de pied de l'Allemagne tout de même, Nicole Niesoto, qui double son budget militaire, qui envoie donc des armes défensives. C'est Olaf Scholz, le chancelier, qui était un proche de Gerhard Schröder, qui est plutôt proche des Russes. Le chemin effectué par Olaf Scholz et par l'Allemagne pour arriver à ce week-end et cette décision, comment l'analysez-vous ?
Ah, mais je crois que c'est vraiment un choc pour les Allemands qui se réveillent dans un autre monde. Les Allemands ont cru depuis les 70 ans que l'on a vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'en déléguant aux États-Unis l'ensemble de leur sécurité et de leur défense, ils pouvaient commercer tranquille. Et que l'OTAN et la politique américaine les dédouanaient de toute responsabilité dans la gestion des crises mondiales, quelles qu'elles soient. Et donc, les Allemands ont construit leur prospérité durant ces 70 dernières années dans cette illusion que l'Allemagne, en tant que nation, n'avait pas besoin de s'occuper des affaires du monde parce que l'Amérique le faisait à sa place, et dans la deuxième illusion que le commerce adoucissait les mœurs, que la force commerciale de l'Allemagne allait lui permettre de créer autour d'elle un environnement pacifique, de plus en plus apaisé, etc., etc. Donc l'Allemagne se réveille aujourd'hui, mais complètement atterrée par le fait qu'elle n'est plus adaptée au monde réel. Et c'est surtout une vraie surprise c'est une révolution psychologique difficile à faire pour les Allemands, de la part du chancelier Scholz, qui est quand même SPD, de la part des Verts, qui sont très nombreux dans la coalition allemande et qui sont par définition plus pacifistes que n'importe quel autre groupe politique en Allemagne. Donc c'est un vrai choc psychologique, et on peut d'autant plus admirer la rapidité de la réaction du chancelier quand il décide donc de moderniser complètement son appareil militaire. Cela dit, entre parenthèses, on peut quand même se dire que alors que l'Allemagne est depuis 1954 complètement intégrée dans l'OTAN, comment l'OTAN ne s'est pas rendu compte que l'armée allemande était à ce point dans un état, si on en croit les Allemands eux-mêmes, de déliquescence absolue. Ça paraît quand même curieux que les Allemands le découvrent aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment une révolution culturelle qui doit se passer aujourd'hui en Allemagne et qui va être difficile. Les Allemands, comme vous le savez, depuis la Seconde Guerre mondiale, avaient une constitution qui leur interdisait de faire la guerre indépendamment des résolutions des Nations Unies et des alliances dans lesquelles ils appartenaient. Ils ont mis très longtemps, ils ont attendu les années 90 pour accepter de participer avec un mandat des Nations Unies dans des opérations extérieures. Par exemple, ils sont venus avec l'Union européenne au Mali, mais toujours dans des opérations de soutien, jamais dans des opérations de combat. Parce qu'il y a cette culture de l'anti-guerre, du pacifisme qui est très prégnante encore dans l'opinion allemande. Donc là, on voit les élites politiques qui ont changé en un week-end, mais je pense qu'il va falloir beaucoup travailler pour que l'opinion allemande dans son ensemble accepte de changer complètement comme ça son fusil d'épaule, si je puis envoyer une métaphore militaire qui peut-être ici n'était pas justifiée.
C'est bien noté. Question de Michel au Standard. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Bonjour madame, si. Il y a une question dont j'ai vraiment besoin, c'est connaître un peu l'histoire sur plusieurs siècles, l'histoire de l'Ukraine, et aussi savoir pourquoi, enfin quels arguments Poutine prétend que l'Ukraine fait partie de la Russie.
Alors, merci beaucoup pour cette question. Dans le temps qui nous est imparti, on va pas refaire toute l'histoire de l'Ukraine. Est-ce que cette histoire, disons, la rattache au monde russe ou au monde européen de l'Ouest, Nicole Niesoto?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle l'histoire. Il y a une histoire réelle, qui est l'histoire des conquêtes, l'histoire de l'origine de la Russie, et puis il y a l'histoire fantasmée de M. Poutine, qui n'a jamais admis la dissolution de l'Union soviétique et qui considère que l'Ukraine est le cœur de la Russie. Alors, historiquement, si on remonte au XIIIe siècle, il n'a peut-être pas tort, mais politiquement, ça n'a strictement aucun sens. Je rappelle que quand l'Union soviétique s'effondre en 1991, donc ça, c'est la date d'histoire moderne, quand l'Union soviétique s'effondre, toutes les républiques à la fois du pacte de Varsovie et de l'Union soviétique deviennent des États indépendants, dont l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, qui étaient, et la Géorgie et les autres évidemment, mais ces trois pays étaient des pays où étaient concentrés les missiles nucléaires oui. de l'Union soviétique. Et donc il y a eu un accord à Budapest, en 1994, qui dit que ces trois pays, Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan, rendent toutes les armes nucléaires qui étaient sur leur territoire à la Russie, qui devient la seule héritière. En échange, les Russes s'engagent à respecter la souveraineté et la sécurité de ces pays. Donc si on prend l'histoire récente, on peut dire que la Russie a reconnu, par le mémorandum de Budapest en 1994, la souveraineté de l'Ukraine. En échange, elle a récupéré les armes nucléaires soviétiques qui étaient sur ce territoire, et que là, il y a une véritable infraction, pas plus qu'une infraction, il y a une violation du mémorandum de 1994 et du droit international par Poutine.
Et je me permets.
Et donc, c'est un peu, pardonnez-moi, comme autrefois, enfin, il y a quelques années, la guerre du Kosovo. Les Serbes avaient raison de dire qu'historiquement, le Kosovo était peut-être à l'origine de la nation serbe, mais ça n'a aucun sens, sinon dans l'émotion fantasmée, ça n'a aucun sens en politique internationale. En politique, ce que l'on doit respecter, c'est les frontières et l'intégrité des États qui sont reconnus par la Charte des Nations Unies.
Et se tenait hier un référendum en Biélorussie pour justement pouvoir replacer les armes oui. nucléaires en Biélorussie. Et message pour notre auditeur Michel qui a besoin d'histoire ukrainienne, ce sera la chronique de Jean Lebrun, l'histoire de Kiev, dans un petit quart d'heure. Nicole Niesoto, Volodymyr Zelensky demande une procédure spéciale pour une adhésion de son pays rapide à l'Union européenne. Est-ce qu'il a la moindre chance d'obtenir satisfaction? Ursula von der Leyen lui dit « Vous êtes des nôtres, vous faites partie du bloc », ce qui n'est pas exactement l'Union européenne.
Oui. Non, c'est une question compliquée. Il a raison de le demander. Je crois qu'il cherche absolument tous les appuis possibles. Mais les Européens, c'est peut-être le seul point sur lequel ils sont divisés en ce moment. Et ils sont divisés non pas sur l'idée que l'Ukraine devienne un jour un membre de l'Union européenne, mais ils sont divisés sur la réalité pratique d'aujourd'hui. Il y a d'un côté, je crois, les réalistes, qui disent que c'est pas possible, que c'est un trop grand pays, en plus c'est un pays en guerre, que c'est un pays dont deux républiques sont occupées, dont une partie a été annexée par l'Union, par la Russie. Donc on a déjà un problème avec chiffres, on va pas en plus faire rentrer un pays dont la souveraineté n'est pas complètement claire. C'est un immense pays de plus de 40 millions d'habitants, donc il faudrait changer les institutions européennes pour qu'ils puissent rentrer dans l'Union sans détruire l'Union, etc., etc. Donc, si on prend un point de vue réaliste, c'est pas possible, tout simplement. Et en plus, l'économie ukrainienne est tellement différente, est tellement en arrière de la moyenne de l'économie européenne que s'il rentrait dans le marché unique, il serait complètement dévasté en quelques mois. Et puis, il y a de l'autre côté, si on prend le point de vue de l'émotion, Et de la solidarité politique, et bien sûr, on a envie de dire oui, il faut que l'Ukraine rentre dans l'Union tout de suite. Tant pis, on verra plus tard les modalités techniques, mais au moins ça serait un geste très fort politiquement de solidarité. Je crois que la division va durer.
Et d'ailleurs, Charles Michel disait ce matin qu'effectivement il y avait des opinions différentes. Je voulais vous poser une dernière question, Nicole Niesoto. Il nous reste une poignée de secondes pour l'instant. Face aux réfugiés qui arrivent aux frontières de l'Ukraine, l'Union européenne et l'unité de l'Europe tient, et notamment la Hongrie accueille des réfugiés.
Absolument. Oui, absolument. Pourquoi ? Parce que ce sont des réfugiés de Centre-Europe, ce sont presque leurs cousins.
Oui.
Ce sont des anciennes victimes de l'Union soviétique, tous ont la même culture historique, sont tous des chrétiens orthodoxes ou uniates ou tout ce que vous voulez, ou chrétiens même, ou catholiques, et que donc la Pologne et la Hongrie n'ont aucune difficulté, d'autant qu'elles sont frontalières, à accueillir ces réfugiés. Donc on est effectivement dans une grande unité européenne pour l'accueil de ces réfugiés, qui ne s'est pas manifesté quand les réfugiés venaient du sud, oui, en particulier de Syrie. Hein.
Et là, en revanche, pour l'instant,
il y a le cap.
Pour l'instant,
c'est l'identité
de
culturelle qui, à mon avis, facilite les choses.
Merci beaucoup, Nicole Niesoto, d'avoir pris quelques minutes pour répondre aux questions des auditeurs de France Inter. Il est 13h45.
France Inter. Le 13-14.
Et dans 10 minutes, on reparle de l'Ukraine avec vous, Jean Lebrun, bonjour.
Bonjour Bruno Duvic.
Le vif de l'histoire consacré à Kiev.
Kiev, peut-être assiégé, mais qui a connu tellement d'épisodes terribles dans son histoire.
Avant cela, le feuilleton jusqu'à vendredi, une semaine, dans la vie de l'avocate Corinne Hermann, la spécialiste des affaires non résolues. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Plaisir de vous retrouver ce soir sur France 2, un téléfilm qui vient de remporter 3 prix au Festival de Luchon. Deux femmes, c'est un polar qui se passe dans les années 60 où les femmes jouent un rôle clé. Il y a tout de même des hommes au casting, en particulier le comédien Aurélien Recoing. Qui est à votre micro aujourd'hui, le temps d'une chanson?
Ce téléfilm, c'est l'histoire d'une commerçante accusée à tort du meurtre d'un employé de banque et l'affaire est confiée à une autre jeune femme, juge d'instruction. Celle-ci, la première, subit la misogynie des policiers. La seconde, la misogynie de sa hiérarchie. Une histoire inspirée d'un fait divers de 1965.
C'est un fait réel et on suit ces deux femmes qui vont chercher l'une à cacher la vérité, l'autre à l'obtenir. Et entre les deux, il y a un homme qui représente tout le machisme de cette époque, qui a une longue histoire derrière lui et qui est un très bon flic, mais dont l'idéologie l'aveugle.
Et cet homme-là, c'est celui que vous incarnez?
Et c'est celui que j'incarne, bien sûr, oui, c'est celui que j'incarne. Avec beaucoup de plaisir et beaucoup de lucidité.
L'après-midi du meurtre, vous étiez où?
Le juge d'instruction. La juge.
On connaît une bonne femme.
C'est un type de personnage daté, de votre point de vue?
Oui et non. C'est ça que j'aime aussi dans cette fiction, c'est qu'on peut retrouver les mêmes encore aujourd'hui. Ce machisme-là, il est toujours existant. La violence faite aux femmes est toujours existante. Et donc, on n'en a pas terminé.
Cette voix, c'est donc Madonna qui a choisi de nous faire écouter Aurélien Recoing, Frédéric.
Avec la chanson Miles Away, à des kilomètres, en français, ballade sortie en 2008, dans laquelle Madonna évoque une relation d'amour à distance. Et c'est en avion qu'Aurélien Recoing l'a découverte.
Je mets mon casque quand je voyage en avion et je dors avec la musique. Bob Dylan, Leonard Cohen, Zappa, les Rolling Stones. Et un jour, il y a 7-8 ans, au moment où j'ai déménagé aux États-Unis, I did a fuzzy dream, et j'entends cette chanson qui me réveille dans mon sommeil, chanson qui arrive à point, juste à point. Comme quand, vous savez, quand on ouvre un livre et qu'on met le doigt sur une page, on regarde, ça vous dit exactement ce que vous êtes en train d'interroger en vous.
C'est une chanson sur la distance.
C'est une chanson sur la distance, sur l'absence, sur le voyage, la relation amoureuse, séparée par les mères. Donc, je vais m'y retrouver. Ma famille aux États-Unis, moi en France, faisant des tas d'allers-retours avec des absences relativement longues. Et je pense que sa chanson, justement, elle m'apaisait. Elle justifiait mes voyages et en même temps, elle me déculpabilisait. Elle redonnait aussi la place de l'autre. En plus de ça, c'est pas simplement une chanson sur l'amour, l'amour-absence, mais c'est aussi une chanson sur ceux qui sont obligés de quitter pour très longtemps, là d'où ils viennent. Et donc, par extension, comment on les accueille.
Est-ce que c'est une chanteuse qui représente quelque chose de singulier pour vous ?
Elle représente justement une émancipation totale à travers ses chansons, sa façon de travailler. Elle est une madone, elle est un repère, elle est une figure de proue. Et si j'étais une femme, peut-être que j'aimerais être Madonna. Il y a quelque chose comme ça en moi.
Miles Away, Madonna, c'était le choix du comédien Aurélien Recoing.
Aurélien Recoing que vous pourrez retrouver ce soir dans le téléfilm Deux femmes, diffusé sur France 2.
À demain Frédéric.
À demain.
Le feuilleton, alors que demain sera inauguré à Nanterre une toute nouvelle juridiction, un pôle dédié aux crimes en série et aux affaires non élucidées. Nous allons passer la semaine avec l'avocate qui est la spécialiste de ces cold cases, pour le dire en anglais, Corinne Herman. Dans ce premier épisode, il est question du grêlé, cet homme soupçonné de 5 meurtres dans les années 80-90, retrouvé mort l'automne dernier. Mais on visite d'abord un lieu qui dit tout de l'engagement de l'avocate. Le feuilleton, épisode 1, dans le bureau de Corinne Herman, avec Corinne Audouin.
C'est vraiment particulier parce qu'on a des cartes de France autour, des fils qui relient des endroits, on a des photos d'enfants. C'est votre outil de travail ?
Oui, ces cartes, elles me sont nécessaires. Ça me permet de mémoriser. Et moi, j'ai besoin de voir les victimes, j'ai besoin de les avoir en tête. Moi, je travaille beaucoup avec l'image, j'ai fait les arts déco, c'est pas pour rien. Parfois, en étant au téléphone, en parlant à l'un ou l'autre, en regardant la carte, tout d'un coup, une idée qui vient parce que j'ai regardé la carte autrement ce matin.
La petite fille avec le chien, là-haut, c'est Cécile, non ?
Alors là, la petite fille avec le chien, c'était une des dernières photos qui a été donnée par le frère de Cécile Bloch. C'est la première victime, le premier meurtre référencé du grêlé. Et cette petite fille, elle entoure le cou de son chien, elle le tient contre elle. Et je trouve cette photo tellement belle. Et voilà, c'est l'image de cette petite fille dont on a volé la vie. Ces victimes, elles sont plus là et pour moi c'est important et c'est cette émotion qui me permet d'avancer parce que par moment on n'avancerait plus. Il y a des avocats qui n'arrivent pas à rentrer. Bon, j'ai des avocats qui me parlent que du palier de ma porte. Oui. Ça les impressionne de rentrer, ça les dérange. J'essaie de mettre quelques fleurs de temps en temps, mais elles tiennent pas bien. Il va y avoir quand même une ambiance dans ce bureau qui fait que les fleurs ne tiennent pas. Moi qui aime les fleurs et les plantes, elles ne tiennent jamais. Mais bon, voilà, il faut de la force hein, pour s'y remettre. On est en échec longtemps dans ces dossiers. Donc l'échec, nous aussi, on l'affronte comme les familles. Parfois, le moteur, il s'enraye. Hein, c'est des fois difficile.
Quelle est la part dans votre métier d'intuition ? Vous avez une formation de criminologue, vous n'êtes pas pour autant, comme dans les séries télévisées, à avoir des visions, et vous allez toujours sur les scènes de crime, même 20 ans, 30 ans après. Qu'est-ce que ça apporte d'aller sur la scène du crime ?
Mais la scène de crime, c'est d'aller sur les pas du tueur, mais aussi les pas de la victime. Dans un crime, il y a deux facteurs, il y a le tueur et la victime. Et pourquoi ils se sont rencontrés ? Et pourquoi le crime a lieu là? Et pourquoi le crime s'est fait de telle façon? Il faut aller voir les lieux, les obstacles, les difficultés. Pourquoi le criminel a pu aller là? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est choisi? J'ai besoin de comprendre la scène de crime parce qu'elle me parle de la victime et donc elle me parle du tueur. La scène de crime, c'est ce qui est signé par l'auteur. Ça se lit, ça parle. La scène de crime, c'est la photo que nous laisse l'auteur. C'est la photo de sa psychologie, c'est la photo des difficultés qu'il a pu avoir sur place parce que la victime s'est défendue et autres. C'est la photo de ses motivations et ça, c'est une mine de renseignements.
Quand il y a une disparition, il n'y a pas de scène de crime. On fait comment ?
Une disparition, il y a une scène de crime. Quoi qu'on en dise, le lieu où elle vivait, le chemin qu'elle faisait, les conditions de ce chemin, c'est une scène de crime. C'est une scène de crime totalement virtuelle, mais elle existe. Et le jour où on pensera comme ça les disparitions, je vous assure qu'on en résoudra de plus en plus.
Le ministère de la Justice a dit que, a priori, 241 dossiers avaient vocation d'aller dans ce pôle. Ça vous dit quoi, ce chiffre, Corinne Hermann ? Ça correspond à quoi ? On sait combien il y a d'affaires non résolues en France ?
On ne sait pas aujourd'hui combien de dossiers non résolus existent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on estime entre 150 et 200 dossiers par an non résolus. Si on fait le calcul sur plusieurs années, on va dépasser largement le chiffre qui a été annoncé. On nous a aussi entendu sur notre demande d'établir un fichier des empreintes génétiques des victimes.
Ça n'existe pas.
Alors, le fichier des empreintes génétiques des victimes n'existe pas. Nous, dans les cold cases, on se rend compte qu'on est obligé régulièrement d'exhumer les corps des victimes pour établir leur empreinte génétique, pour la comparer avec éventuellement des résultats qui sont obtenus sur les scènes de crime. Pour donner un exemple, dans le fourgon de Michel Fourniret, on a trouvé de nombreuses empreintes génétiques inconnues, mais on ne pouvait pas comparer ces empreintes à celles des victimes sur le territoire français, des affaires non résolues, parce qu'on n'avait pas l'empreinte génétique des victimes. On est obligé de les exhumer et d'essayer d'établir leur empreinte.
Le feuilleton, l'avocate Corinne Hermann avec Corinne Audouin, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Pour Michel, notre auditeur qui demandait tout à l'heure de l'histoire ukrainienne, le vif de l'histoire, Jean Lebrun. Kiev se retrouve aujourd'hui entouré de troupes qui l'enserrent dans un étau. Et au fond, sa situation dans un espace ouvert peut devenir un handicap.
Oui, je vais faire comme Michel, calculer en siècles, voire en millénaires. Kiev a été fondée au 6e ou au 7e siècle, et c'est au bord du Dniepr, une étape sur une route qui va de la Baltique à la mer Noire, des Vikings et des Varegs au nord, à Byzance au sud. Alors le grand homme en est le prince Vladimir au 10e siècle. Une chronique du moine Nestor le décrit comme un jeune homme sans scrupules. Il aurait collectionné jusqu'à 800 maîtresses, mais il est devenu un personnage avisé. Il a examiné les religions alentour et choisi en 988 le christianisme, car la majorité de ses sujets y adhéraient, que c'était le désir de son interlocutrice de Byzance. Vladimir sera nommé Saint Vladimir le Grand, fondateur de l'État de la Rousse. Son fils, Yaroslav le Sage, c'est pour Michel que je dis ça, saura nouer des alliances dynastiques un peu partout en Europe, jusqu'en France. Anne de Kiev épousera ainsi Henri Ier Capet, juste avant le schisme de 1054 qui séparera orthodoxie et catholicisme. Sur une fresque de la cathédrale Sainte-Sophie, on aperçoit la silhouette présumée être celle de la petite reine Anne, fragile présence française dans un vaste monument, qu'il serait difficile pour Poutine de bombarder parce que la cathédrale Sainte-Sophie, homologue de Sainte-Sophie de Constantinople, c'est le berceau de Kiev.
Fondation sous le signe du christianisme donc, mais cette rousse de Kiev ne durera pas. La ville connaîtra deux premiers grands sièges.
Là, le mot siège est adapté. Et le premier, c'est le fait d'un prince de la dynastie qui préfère une ville plus au nord, Novgorod. Kiev est déjà en déclin quand les Mongols l'assiègent, puis l'anéantissent au début du XIIIe. L'émiettement de la Rousse commence, elle est longtemps vassalisée par la Horde d'Or, puis dans un style différent, par la Lituanie et la Pologne. Enfin, 1686, la Pologne cède Kiev à Moscou, la Russie unifiée, dont se réclame Poutine, date de ce moment, qu'administre avec une certaine vigueur Pierre le Grand, puis Catherine II.
Fin du XVIIe, puis XVIIIe, Kiev sous l'Empire russe, c'est une capitale provinciale avec un gouverneur général, rien de plus.
Une université tout de même, Bruno. Il faut dire aussi que déjà située au cœur d'une région agricole très riche, elle gagne en importance avec la révolution industrielle, plus de 350 000 habitants en 14.
On en arrive à la période d'après 17 qui est inouïe. Kiev change de main 10 fois entre la révolution russe et 1920.
Oui, alors l'écrivain de Kiev le plus connu, Andrei Kourpov, dont je vous parlerai demain. Il consacre à cette période une trilogie, il faut au moins ça. Kourpov dit que les Ukrainiens sont familiers du chaos. Oui, la ville est tour à tour, je ne veux pas dire administrée, ni tenue, disons revendiquée. J'énumère dans le désordre la Rada, le parlement qui a proclamé l'indépendance, l'armée blanche de Denikin, l'armée rouge, les Allemands directement, ou par l'intermédiaire d'un général collaborateur, les Polonais enfin, et j'ai oublié l'anarchiste Makhno qui rôde dans les parages. Vous vous souvenez de la chanson écrite par Rodagil ? Nos drapeaux sont noirs, de notre peine et rouge de notre sang.
Finalement, c'est le drapeau rouge qui l'emportera et de nouvelles épreuves surviennent avec la Deuxième Guerre mondiale qui dévaste l'Ukraine.
Terre de sang, ainsi la nomme le grand historien américain Timothy Snyders. La Wehrmacht envahit le pays, mais 80 jours à prendre Kiev. Les sièges, ça se fait pas du jour au lendemain. Et la ville, quand elle sera reprise en novembre 43, sera un amas de ruines. Nous autres, Ukrainiens, sommes familiers du chaos. Andrei Kourkov.
Et aujourd'hui, 3 800 000 habitants à Kiev et un pourcentage qui s'est inversé entre Russes et Ukrainiens.
Je vous ai mis un chiffre excessif. Un peu moins de 3 millions d'habitants.
Eh ben, c'est noté.
Avec, depuis l'indépendance, un solde positif. C'est ça qui est le plus important. Et un pourcentage qui s'est inversé entre Russes et Ukrainiens. À la veille de la guerre déclenchée par Poutine, 13% de Russes, 83% d'Ukrainiens, et c'est un chiffre qui aura son importance demain.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire dans quelques minutes, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Il faut moins que jamais vous rater aujourd'hui, Mathieu.
Voilà, on va vous dire ce qu'il faut retenir du nouveau rapport du GIEC publié aujourd'hui.
À tout de suite.